France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT Sandin the House.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Il voulait faire 50 films, il en a fait 46. Frédéric Wiseman est mort à 96 ans. Il laisse une œuvre documentaire immense. Il posait sa caméra de très longues heures. Il filmait la vie en mouvement. Son œuvre est un édifice au-delà même de la société américaine qu'il a beaucoup filmé, mais pas seulement. Il a aussi été l'inspirateur de cinéastes, notamment Rebecca Zlotowski, qui est avec nous ce soir. Il semble que les ambassadeurs nommés par Trump ne soient aussi peu diplomates que lui. C'est ce que nous dira Frédéric Seyss, qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est au Groenland ce soir, à la veille de la visite du roi du Danemark. Si la crise créée par Trump s'estompe, il reste de profonds traumatismes dans cette société et qui reviennent frapper à la porte.
J'ai été victime d'une campagne de stérilisation forcée à l'âge de 20 ans. Je pensais que c'était normal. Les Groenlandais ont toujours appris à dire oui aux Danois.
Un reportage à découvrir autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé l'Arabie Saoudite où 10% de la population est sur les applis de rencontre. Et puis Caroline, au pays des 27, ouvre la porte de l'homme en charge de l'intégration de l'Ukraine dans l'Union. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Je déteste l'expression cinéma-vérité parce que je trouve que c'est très prétentieux. Et comme ça, comme une blague, un jour j'ai dit à un journaliste que mes films sont reality fiction.
Reality fiction à la place de cinéma du réel ou cinéma vérité. Bonsoir Rebecca Zlotowski.
Bonsoir Fabienne.
Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisatrice, vous êtes scénariste, vous êtes actrice et vous avez accepté. On est vraiment ravis de nous aider à rendre hommage à Frédéric Wiseman.
J'ai trop de respect pour cette prétention pour vous laisser dire ça.
Bah nous on est contents. En tout cas, qui a été probablement le documentariste le plus important de l'histoire du documentaire. Vous le connaissiez, vous l'avez fait jouer dans deux de vos films. Les deux derniers d'ailleurs, on va en parler. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il dit à l'instant parce qu'on savait qu'il aimait pas dire cinéma du réel ou je fais du cinéma vérité. Il dit je fais de la fiction réaliste. Est-ce que ça vous va comme qualificatif ou est-ce que vous en avez peut-être un autre même pour lui ?
Oh, je pourrais pas. Je pense qu'il était très qualifié pour désigner ce qu'il faisait. Je pense que ça, il réagissait à quelque chose qui était banal à l'époque, puisqu'il a été quand même un peu un pédagogue pour expliquer que le cinéma, y compris documentaire, était pas un cinéma qui se fabriquait sans penser, uniquement avec une caméra qui enregistrait. Donc, je pense qu'il réagissait à ça à l'époque. Il était aussi en colère contre une certaine génération de cinéastes qu'il estimait un peu prétentieux. Il avait de la malice avec ça. Donc, je pense que c'est dans sa modestie qu'il raconte ça.
Vous nous dites d'où vient cette relation privilégiée que vous aviez, vous, avec lui. Il paraît que vous l'avez rencontré bêtement dans un ascenseur.
Oui, bah c'est un peu équivoque de le formuler comme ça. On s'est rencontrés en tout honneur dans un ascenseur. On était au Festival de Venise. Il avait des très grandes chaussures de marcheur et moi j'avais des chaussures à paillettes parce qu'on était dans un festival avec des représentations. Et il m'a dit, oh, vous avez des belles chaussures. Je lui ai dit, bah, vous aussi. Et il m'a dit, j'ai des chaussures de réalisateur, moi. Et moi j'ai dit, moi aussi j'ai des chaussures de réalisatrice. Et alors on s'est rencontrés comme ça et comme il vivait ensuite à Paris et que je pense surtout qu'il cherchait des compagnons de table, parce que c'est ça qui a impressionné surtout en le rencontrant, c'était que contrairement au dispositif très austère ou très rigoureux qu'il établit dans ses films, c'était sa curiosité partageuse et joyeuse. J'ai eu la chance de le rencontrer et de le filmer.
De le filmer et même, paraît-il, de faire du ski avec lui. Vous lui avez fait jouer un gynéco et vous lui avez fait jouer un psy.
Oui.
Et j'ai lu que vous aviez même...
Oui,
absolument. Vous aviez même un projet d'en faire un cardiologue, paraît-il, dans votre prochain film. Et c'est drôle, en fait, de voir à quel point vous vouliez en faire un médecin. Je me demandais si ça avait à voir avec le regard clinique qu'il avait justement sur la société et si c'était pas ça le clin d'œil.
Alors, je ne parlerai pas de clinique pour son regard, mais c'est vrai que si on veut filer la métaphore, il auscultait comme un scanner, en fait, en posant. Il avait la science de lire quelque chose d'invisible dans des lieux dont il essayait d'épuiser un peu comme ça, de récurer le lieu, mais aussi comme un médecin. J'ai envie de dire, il est là pour diagnostiquer le mal, mais aussi pour possiblement le guérir. Et je trouve que son cinéma, c'était ça. C'était en même temps diagnostiquer ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, mais aussi nous apporter un remède. Donc ça lui allait très bien, quoi. Et en plus, il avait cette tête de médecin, excusez-moi. Il avait vraiment ce visage magnifique à filmer. Et puis ce nom qui, pour moi, était un nom de totem de la judéité médicale, Wiseman.
J'ai gardé l'homme sage,
absolument.
Je trouve ça vraiment émouvant, Rebecca Zlotowski, parce qu'on voit bien, on entend, on va y venir évidemment à son œuvre, mais on lit que Milos Forman s'est inspiré de lui quand il a fait Volo-dessus d'un nid de coucou. On entend même Arnaud Desplechin qui parle d'images de Law and Order dans Roubaix-Ville-Lumière. Mais vous, on a aussi le sentiment que c'est le petit monsieur rieur qu'il était devenu en vieillissant qui vous inspirait beaucoup. C'est ce personnage-là aussi, autant que ces films que vous aviez envie de mettre dans les vôtres et avec lequel vous aviez envie de passer du temps.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a une part hédoniste, jouisseuse, le plaisir de la rencontre de cet homme passionnant, intelligent, très drôle, beaucoup d'humour, mais on le sent aussi dans ses films. Hein, dans le, il appelait ça son montage mosaïque, c'est-à-dire un montage qui vous permettait de coller, enfin dans le raccord, de voir l'intelligence des liens qu'il établissait, mais qui vous laissait la possibilité d'établir. Et aussi avec le double sens de mosaïque, qui comme dans la loi mosaïque, vous dit, si vous regardez quelque chose de très près, vous y trouvez du sens, et si vous l'interrogez comme ça, vous y trouvez du sens. Évidemment, j'avais le plaisir de sa rencontre. Je dirais pas petit homme rieur, je dirais vraiment grand homme rieur. Mmh. Et oui, beaucoup de tendresse. Et aujourd'hui, je suis aussi, j'ai perdu un ami. Mais c'est vrai que son cinéma nous apportait la possibilité de, j'allais dire, d'une connaissance, d'une exhaustivité de la connaissance. On dit souvent, le cinéma nous donne des nouvelles, des choses, du réel. Ça, c'est des expressions un peu figées. Mais lui a vraiment travaillé, je mets l'accent sur le mot travail, à mettre sur son étagère de tous ses films. Je ne savais pas qu'il voulait en faire 50. Mmh. Mais bon, c'est vrai, et je ne les ai pas tous vus, par ailleurs. Hein, je ne suis pas spécialiste de son œuvre. Mmh. Mais il est certain que le monde, notamment la société américaine, peut tenir sur l'étagère, je trouve, de Frederick Wiseman. Et quand je voulais le filmer, oui, je voulais filmer cet homme, le plaisir que j'avais de le rencontrer d'un ami rêvé, d'un grand-père rêvé, mais aussi comme faire vivre pour l'éternité ces institutions qu'il a documentées au départ dans un sens critique, mais qui aujourd'hui sont tellement attaquées, qui s'évanouissent, qui sous les coups de butoir de l'administration Trump et qui aujourd'hui doivent juste peut-être témoigner du fait qu'elles ont existé. Donc j'avais envie que ça existe pour toujours.
L'importance du montage, vous en parliez effectivement à l'instant, et lui en parlait beaucoup parce qu'il filmait pendant 2 semaines, 3 semaines, parfois 2 mois, 3 mois. Mais ensuite, le montage...
C'était pas des très longs tournages,
exactement,
c'était le montage qui durait.
Était gigantesque. Écoutez-le parler du montage.
À la fin du tournage, j'ai à peu près, en général, 100 heures de rush. Et il faut que je trouve le film parmi ces 100 heures. Je regarde tout. Et j'utilise un système très connu en France qui est adapté du guide Michelin. Je donne des séquences 1, 2 ou 3 étoiles ou pas d'étoiles. Et puis je commence à les monter. Et dans un certain sens, le montage, c'est une façon de parler avec soi-même. Je ne suis aucun principe, sauf que j'essaie de comprendre ce qu'il y a devant mes yeux et mes oreilles.
C'est hyper gourmand, en fait. Et je dis pas ça parce qu'il a fait un film sur la famille Trois Gros, mais c'est gourmand, sa manière de parler. Parce qu'il y avait une méthode, Wiseman. Pas de recherche avant, pas d'interview. Jamais demander à qui que ce soit de bouger, de se tourner, ne rien imposer. Sinon, on risque de travestir quoi, en fait, à votre avis, à ses yeux, à lui ?
Alors, gourmand, d'abord, c'est un épithète qui lui va très bien, vraiment. Mais je le crois pas. Je le crois pas d'être arrivé dans les lieux. Pardon. Hein,
je vous en prie, parce que moi non plus, en fait.
Je pense qu'en fait, alors je crois à une chose, c'était sa loyauté hein, face au personnage qu'il filmait, parce qu'en fait, bon, si vous prenez pour ceux qui connaissent pas son œuvre, c'est vraiment il a souvent en fait pris des lieux, donc un peu à la Pérec, une tentative d'épuisement, de récurer un lieu en y passant effectivement du temps. C'est des séquences longues. Les films sont très longs souvent. C'est-à-dire que la durée des films elle fait partie du film. Mais finalement, c'est les hommes et les communautés qui l'intéressaient. Et je pense qu'en fait, ce qui l'intéressait, c'était y compris d'appartenir à ces communautés, de les filmer. Quand il filme que ce soit les banlieues, les marges des grandes villes, le City Hall, une mairie à Boston, la grande librairie de New York, le Crazy Horse à Paris. Bon, voilà. Ce sont aussi, donc vous voyez un peu l'éclectisme aussi quand on parle des lieux qui l'intéressaient. C'est évidemment ces lieux-là dont il ne pense et ne sait rien au départ, mais ensuite pour filmer ses communautés, et à mon avis aussi, et ça je l'ajoute, pour pouvoir quitter ses communautés quand il veut. Parce qu'il y avait cette autonomie, cette espèce de solitude qu'on entend d'ailleurs quand il parle de son rapport au montage où il s'adresse à lui-même. Donc je pense que ce qu'on peut retenir de ce qu'il dit, c'est qu'il n'avait pas d'idée préconçue, ça paraît banal et un lieu commun de le dire, mais c'est très important, c'est-à-dire que c'est l'inverse du documentaire de flux ou du reportage, qui vient étayer, on allait dire, une pensée, une théorie, une idéologie, et pourquoi pas d'ailleurs, c'est d'autres films, mais lui vraiment arrivé sans idée préconçue ou il découvrait au montage.
Il le disait lui-même d'ailleurs, il le disait d'ailleurs avec beaucoup de tendresse et en riant, il disait je suis l'anti-Michael Moore en fait, donc il n'y a pas d'idée de départ, on va dire, il n'y a pas de construction surtout, puisqu'on voit bien que Michael Moore, il le construit pour aller vers ce qu'il pense, son documentaire, ce que ne faisait pas Wiseman. Un petit extrait d'un de ses films qui s'appelle Welfare, c'est probablement le plus connu.
Is that all the money I'm going to get?
That's correct, they will not pay the rent.
All right, that's it. Now, will, when it
faut raconter que ça se passe dans un immense centre social de Manhattan. Il l'a tourné en 75, je crois. Là, ce qu'on voit, c'est une femme au guichet qui demande à quel moment elle pourra toucher enfin l'argent qu'on lui doit, parce que sinon, elle ne peut plus manger, elle ne peut plus payer son loyer. Et en fait, ce que je me suis dit en revoyant ces extraits-là, c'est que n'importe quel cinéaste payerait cher pour écrire les mêmes dialogues, en fait. Et peut-être même pour avoir le même décor autour.
Oui, ça c'est certain que la charge, on allait dire, de réalisme, hein, elle est puissante, mais ce qui est fascinant, je trouve, dans le film, c'est que ça vous amène, parce qu'il est question que de regard, il y a des plans qui sont inoubliables, notamment ces hommes qui viennent récupérer ou demander donc une allocation et qui ont porté sur leur costume les médailles de leur costume des Marines ou de la guerre du Vietnam, peut-être qu'ils ont fait, dont ils sont revenus, etc. Donc ce qui est très émouvant, en fait, c'est ça vous amène et à voir l'état dans lequel est celui qui demande, mais aussi à vous placer à peu près dans tous les points de vue, dans parfois la roublardise de ceux qui viennent et qui essayent de gruger. Mm-hmm. Et ça, c'est intéressant. En tous les cas, ça vous met dans la position d'être celle aussi qui est, ou celui qui est de l'autre côté du bureau et qui doit établir la nécessité ou pas de donner l'allocation. Donc c'est encore plus, voilà, c'est plus ambigu que ça, et ça nous place dans une position très adulte, j'allais dire.
Et ça, bien sûr, il le garde. Il y a un autre film qui est dans votre panthéon à vous, Rebecca Zlotowski, un tout petit extrait, peut-être que vous allez le reconnaître tout de suite.
Right. This is great. Here's a man who is drawing negative area.
Alors, ça s'appelle Aspen. Donc là, il dépeint les riches, les très riches. Il y a toute une série de small towns qui disent chacune une chose différente. Aspen, on est chez les riches, là, en l'occurrence, c'est un club de peinture, professeur auprès de qui se moque beaucoup de ses élèves. Là, on est dans la vraie satire moqueuse. Pourquoi celui-là est dans votre panthéon à vous ?
Alors, j'allais dire, parfois je suis désolée d'aimer chez les grands cinéastes leurs films parfois plus mineurs ou ceux qui sont plus faciles d'accès aussi, parce qu'à une époque il y avait il a une trilogie comme ça sur la société de consommation entre The Store, une agence de mannequins aussi qui s'appelle Model, et celui-ci Aspen, et qui est un peu comme aborder la sociologie. On peut aborder la sociologie avec Erving Goffman, mais aussi on peut aborder la sociologie avec Les Pinsons Charlot, c'est-à-dire La vie des riches. Et ça, c'est vrai que c'était... Je ne sais pas pourquoi j'ai plongé dans ces films au début, parce que ça m'amusait qu'il y avait une malice très, très... qui affleurait de manière très visible, et qu'il y avait comme une générosité de filmer cette vie-là qui scintillait de cette grande station du Colorado, qui est effectivement un peu le Courchevel, j'allais dire, local. Donc c'était amusant. Et en même temps, je ne suis pas sûre qu'il s'en moque uniquement. C'est vraiment aussi... Il filme aussi un conseil municipal à un moment, et on retrouve effectivement dans son attention. Il a fait ensuite, il y a quelques années, ce film dans une petite commune très conservatrice de l'Indiana. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'était une manière de coller côte à côte, voilà, la vie des blancs riches, des blancs pauvres, des noirs riches, des noirs pauvres. Et c'était une manière d'embrasser le réel la plus exhaustive possible, je pense. Et aussi son intérêt, parce que comme vous l'avez dit, il skiait bien. Ouais, ouais. Et je pense que ce qu'il aimait, c'était de passer 3 mois à Aspen. Il a utilisé le cinéma aussi, comme plein de cinéastes qui me passionnent, comme une porte d'entrée dans des zones plus interdites ou secrètes, ou qui les attiraient, quoi. Et je crois qu'il était attiré par ça, au premier degré.
Le film auquel vous faites allusion, c'est Morovia Indiana. Il y a eu Belfast Maine pour les pêcheurs. Ouais. Il y a eu effectivement Aspen pour les riches. Une série comme celle-là, Rebecca Zlotowski, c'était un plaisir de discuter avec vous de ce grand documentariste qui était Frédéric Weisman.
Un plaisir de lui rendre hommage.
Eh bien, écoutez, plaisir. Donc ruez-vous. Si vous ne le connaissez pas, vous avez de la chance. Comme ça, vous découvrirez des choses merveilleuses en regardant ces films. Merci vraiment. La suite, c'est vous, Frédéric Seyss, et vous remettez le monde à l'endroit.
Et pourquoi les diplomates américains sont de moins en moins diplomates ?
Eh bien, juste après ça.
This is why, when you tell me that you love me, something you said oh 1 million times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these 3 words make me want to cry. Imagine what your kisses do. When mixed with an I love you, you make me feel like I can only die. You make me hot in December. Even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the? I'm scared it's you.
De rejoindre la playlist de France Inter avec This Is Why, Le Monde à l'endroit, c'est Frédéric Seix.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et cette question, Frédéric, le trumpisme et la diplomatie font-ils bon ménage?
Alors c'est un communiqué au vitriol diffusé cet après-midi, Fabienne, par le gouvernement belge. Il dénonce, je cite, des ingérences et des attaques personnelles. Alors ingérence, attaque personnelle, avec ce lexique, on s'attend à ce qu'il soit question de la Russie ou de l'Iran, mais pas du tout. C'est l'ambassadeur des États-Unis qui est visé. Il a même été convoqué cet après-midi par le ministère belge des Affaires étrangères. Un geste rarissime, surtout quand il s'agit d'un pays allié. Alors que s'est-il passé? Bill White, l'ambassadeur nommé par Donald Trump, a lancé la polémique en accusant la Belgique d'antisémitisme. Il déplore que le pays n'autorise pas la circoncision traditionnelle. Trois religieux juifs y sont poursuivis pour avoir accompli cet acte sans l'assistance de médecins diplômés, ce qui est interdit en Belgique. Sur les réseaux sociaux, l'ambassadeur américain met en cause publiquement le ministre belge de la Santé. Bref, c'est une mini-crise diplomatique qui s'est ouverte chez nos voisins.
Et l'épisode rappelle celui vécu en France il y a 6 mois.
Avec le recadrage public d'Emmanuel Macron contre l'ambassadeur américain à Paris, Charles Kouchner avait accusé dans la presse américaine le gouvernement français de ne pas agir assez fort contre l'antisémitisme. Le fond comme la méthode avait choqué l'Élysée. Plus récemment, en Pologne, un accrochage sérieux a opposé l'ambassadeur des États-Unis et le président de l'Assemblée nationale polonaise. Sa grande faute, aux yeux de Washington, c'est qu'il a émis des doutes sur l'idée que Donald Trump reçoive le prix Nobel de la paix. Résultat, l'émissaire du président américain a rompu tout contact avec l'insolence qui agace jusqu'au premier ministre polonais Donald Tusk. Les alliés devraient se respecter, dit-il, et non pas se donner des leçons. Alors entre nous, Fabienne, réussir à fâcher la Pologne, qui est l'un des pays les plus pro-américains d'Europe, c'est en soi une performance.
Donc les incidents se multiplient entre les ambassadeurs américains et les pays qui les accueillent. Comment on explique ça?
D'abord, les ambassadeurs appliquent bien sûr le trumpisme sur la forme et sur le fond. Sur la forme, c'est une franchise décomplexée à la limite de l'impolitesse. Par exemple, l'émissaire de Donald Trump en Belgique s'exprime par tweet agressif écrit en lettres majuscules. On est loin du cliché des diplomates qui prennent le thé. Sur le fond, America first, l'Amérique d'abord, les alliés réduits au rôle de supplétifs, voire de vassaux. Et c'est vrai que les vassaux, on leur parle rarement poliment. Mais ces incidents diplomatiques tiennent aussi au profil des ambassadeurs choisis par Donald Trump. Leur qualité première, c'est leur allégeance, leur proximité, non pas leur connaissance des usages diplomatiques. L'ambassadeur à Paris est un mania de l'immobilier. Il est par ailleurs le beau-père de la fille de Donald Trump. Il a eu cette phrase assez franche, hein, d'ailleurs, juste avant d'être nommé. « Je ne connais pas grand-chose à l'art français ou au vin, mais je comprends le business. » Alors certes, recaser ses amis dans les postes prestigieux, ça n'est pas nouveau. Mais avec ses nominations, Donald Trump veut aussi casser ce qu'il appelle l'état profond. Ceux qui sont nommés ne sont pas des experts du sérail, mais des entrepreneurs ou des consultants, souvent aussi des donateurs. Tous sont étrangers aux élites traditionnelles américaines formées dans les prestigieuses universités de la côte Est qui cultivaient souvent une proximité culturelle avec l'Europe. Cela dit, cette forme de diplomatie agressive n'est pas l'apanage des États-Unis. Depuis une décennie, la Chine envoie dans ses ambassades ce qu'elle appelle des loups guerriers chargés d'assumer sans retenue la politique de Pékin. Leur mission, combattre plutôt que de débattre, attaquer publiquement plutôt que de négocier en coulisses. C'est aussi ça, la diplomatie 2026.
Frédéric Seix, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour au Groenland. Ce soir, où nous retournons Alors que Donald Trump semble avoir calmé ses envies d'annexion, en tout cas pour l'instant, mais cette crise a réveillé des traumatismes profonds chez des milliers de Groenlandais, traumas liés à plusieurs siècles de colonisation danoise. Et justement, alors que le roi du Danemark est attendu demain à Nuuk, la capitale du Groenland, c'est un témoignage rare que vous allez entendre, celui de l'une de ces milliers de femmes inuites, il y en a eu au moins 4000 en tout, qui ont été stérilisées de force dans les années 60 et 70. Copenhague entendait ainsi limiter la population locale. À l'époque, le Groenland avait l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde. Écoutez donc cette femme, elle va vous dire son nom, et le reste c'est Tajera Mohamed qui raconte.
On est dans un quartier qui est situé sur les hauteurs de la ville de Nuuk. On est entouré par les fjords. Il y a de la neige partout, partout, partout. Là en bas, je vois le port avec les bateaux. Et nous, je crois qu'on doit aller vers cette maison peinte en rouge. Donc on va y aller.
Hi. Hello.
Hello.
Yeah, come in.
We can sit here and talk. If you want to, do you want some water or coffee or tea?
Un café, je veux bien, s'il vous plaît.
Inga Platou met Rappunga, Nietzsche, Sinoke, Rappunga.
Je m'appelle Inga Platou, j'ai 69 ans et j'ai été victime d'une campagne de stérilisation forcée à l'âge de 20 ans. À cette époque-là, j'étais juste une fille ordinaire qui souhaitait avoir des enfants un jour et fonder une famille. J'ai eu une infection gynécologique et je suis allée consulter un médecin. Pendant la consultation, ils m'ont mise sous morphine, ils m'ont anesthésiée pour m'examiner et là, sans prévenir, ils m'ont inséré un stérilet en forme de spirale. Après, je n'en ai jamais vraiment parlé. Je pensais que c'était normal. Les Groenlandais ont toujours appris à dire oui aux Danois. On ne posait pas de questions. C'était censé être comme ça, et puis c'est tout.
À 24 ans, Inga tombe enceinte, une grossesse extra-utérine qui n'a aucune chance d'aboutir. Pendant sa fausse couche, elle se vide de son sang, frôle la mort et doit être opérée en urgence. Les médecins lui retirent alors ce stérilet.
Quand je suis allée consulter des médecins au Danemark, ils m'ont dit que cette grossesse extra-utérine, c'était à cause de ce stérilet et que d'autres femmes avaient vécu la même chose. En fait, j'ai l'impression que nous avons été traités comme des chiens qui avaient déjà trop de petits chiots et qu'il fallait donc stériliser.
En septembre dernier, la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a présenté officiellement des excuses à vous, les victimes.
Pardon. Au nom du Danemark, pardon.
Ces mots, comment vous les avez reçus ?
Je pense qu'il faut arrêter de regarder en arrière, mais il faut aller de l'avant. Oui, ça a été très douloureux pour beaucoup de femmes, mais c'est arrivé, ils se sont excusés, et moi j'ai pardonné. On a eu une compensation financière aussi. 300 000 couronnes danoises, environ 40 000 euros.
Est-ce que l'argent, ça peut réparer ?
Non, of course not.
Non, bien sûr que non. Mais c'est une bonne chose, parce que, par exemple, j'ai adopté deux fils et cet argent m'a permis de les élever dans de bonnes conditions.
Aujourd'hui, le Groenland, on en reparle beaucoup parce que Donald Trump a dit qu'il voulait s'en emparer. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez le président des États-Unis parler comme ça ?
J'ai l'impression que ça y est, ça recommence. Pendant la colonisation danoise, le peuple du Groenland n'avait pas son mot à dire. Et avec Donald Trump, c'est pareil, comme si les Groenlandais n'avaient pas à être consultés. Ça me fait vraiment peur. Ça m'empêche même de dormir parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Inga est l'une des rares victimes à accepter de témoigner encore. Ces dernières semaines, la plupart ont refusé les interviews de peur que leur histoire ne soit récupérée par l'administration américaine pour critiquer le gouvernement du Danemark.
Tajera Mohamed, pour le reportage, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est vous, Guillaume Edor, qui êtes allé chercher des choses sous les radars.
Oui, ou comment le Niger cherche à revendre 1000 tonnes d'uranium confisquées à une entreprise française, mais dont veut s'emparer l'État islamique.
Et puis Caroline Gillet, oui. Au pays des 27, Caroline.
L'Ukraine veut rentrer dans l'UE, mais quand et comment ? Je serai avec un ex-banquier qui va à Kiev pour négocier au nom de la Commission.
Allez, à tout de suite, les amis, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la Turquie, un petit peu de Pays-Bas aussi avec Altıngun. Gokaduya, ou à peu près. C'est le titre phare et c'est le choix de Djoubaka. sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Allons faire un tour sous les radars, justement. Il paraît que Guillaume Audat y habite.
Cualquier rostro puede ser el de un hijo, una hermana o un amigo.
On est sans nouvelles, Guillaume, de Clemente Lopez, 93 ans, depuis 2021, pas de nouvelles depuis 2021. Et comme lui, au Mexique, au moins 130 000 personnes ont disparu ces 10 dernières années.
Des chiffres absolument terrifiants depuis 2016. En effet, les disparitions inexpliquées, je mets des guillemets, ont augmenté à de 200%, des guillemets. Pourquoi ? Parce que ce phénomène de disparition massive au Mexique est évidemment lié à l'explosion du narcotrafic et à l'emprise des cartels sur des pans entiers de territoire. Ils sont le reflet, ces kidnappings, de très violentes rivalités entre groupes criminels qui se disputent des business, des quartiers et le pouvoir, bien sûr, sur fond de règlement de compte. Mais plutôt que d'assassiner et de laisser traîner les corps, ce qui attirerait la police, on enlève, on élimine et on enfouit les dépouilles dans des fosses communes. C'est ce que rapportent les connaisseurs de cette société mexicaine. En pleine dérive, l'État perd contrôle, la violence explose. Et à la fin, ce sont des dizaines de milliers de familles ravagées par une crise endémique que Mexico ne parvient plus à juguler.
C'est à Niamey que nous sommes, Guillaume. Des djihadistes attaquent l'aéroport international où sont stockées 1000 tonnes d'uranium que le Niger cherche désespérément à revendre.
Et vous avez là tous les ingrédients d'une affaire très sensible qui implique la junte au pouvoir, le groupe État islamique qui a mené cet assaut spectaculaire, c'était il y a 15 jours, et la France, accusée par Niamey d'être derrière cette opération armée.
Avant qu'on se prépare pour la guerre avec la France.
Un officier de l'armée nigériane, déclaration faite ce week-end, on est prêt pour la guerre avec la France. À ses yeux, Paris cherche par tous les moyens à déstabiliser le Niger. L'enjeu sont en effet ces 1000 tonnes d'uranium, du yellow cake, c'est le carburant des centrales nucléaires. Ce stock, l'entreprise française Orano, ex-Areva, qui produit sur place, a cherché à le rapatrier en novembre dernier. Casus belli pour les autorités qui s'en sont emparées et cherchent désormais à revendre cette marchandise confisquée, valeur 220 millions d'euros tout de même. Sauf que cet uranium, trop risqué à vendre, en raison du litige avec Paris, ne trouve aucun preneur sur les marchés. En attendant, il reste aux mains de la junte, très fragilisé, mais suscite, on l'a entendu, de violentes convoitises. Affaire à suivre.
Un petit saut léger en Arabie Saoudite pour terminer, où les applications de rencontres explosent tous les compteurs.
Voilà, Fabienne. Faites briller ma flamme, ouais, les papillons dans le ventre, voilà, et qui sait à la aussi. Fin, une date, un rendez-vous. Pourquoi ne pas rêver ce frisson du premier match, ou comment ça colle entre vous et moi. 3,5 millions de Saoudiens le connaissent désormais. 10% de la population a téléchargé ces dernières années une application de rencontre sur son téléphone. Tinder fait un carton au pays de l'or noir, mais pas seulement. Les concurrents, les Hinge, les Bumble ne sont pas en reste depuis que le royaume a décidé d'ouvrir timidement la porte aux relations amoureuses, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, relations numériques, il faut imaginer que voir des hommes et des femmes se côtoyer là-bas sans lien de parenté, c'était proprement inimaginable il y a encore 10 ans, date à laquelle MBS, le prince héritier, a décidé de moderniser son pays. Peu à peu, la police religieuse s'efface, des cafés branchés ouvrent à Jeddah ou Riyad, les restrictions sur l'alcool s'assouplissent, pardonnez-moi, mais très progressivement, un peu que d'ailleurs comme aux Émirats voisins, où toute une partie de la jeunesse saoudienne va d'ailleurs s'encanailler après évidemment avoir matché.
Après seulement, merci beaucoup Guillaume, vous reviendrez demain. Le mardi, Caroline Gillet ouvre les portes de l'Europe. Qui est là ?
France Inter, le 18-20.
On ne sait pas encore qui est là, Caroline, mais vous allez nous parler d'Ukraine.
Oui, d'ici quelques jours, Fabienne, vous serez dans un train en route pour Kiev. Vous avez fait vos valises ?
Absolument pas.
Je vous prêterai des chaussettes chaudes.
Thermiques même.
Oui, et ce soir, je vous propose de suivre un fonctionnaire de la DG élargissement de la Commission, Benoît Ménard. Depuis un an, il prend régulièrement ce même train et rien ne le prédestinait à ça.
Bonjour, enchanté.
Benoît, c'est un financier.
Votre cantine
Il a travaillé longtemps comme auditeur dans tout plein de banques. Il connaît les chiffres, il est sérieux. Et au début, il faut dire qu'on n'était pas alignés.
Chacune de mes misérables tentatives à faire des blagues tombait à plat, c'était assez gênant.
Vous amenez des Tupperware peut-être ? De chez vous.
Voilà, un bide. Et puis j'ai posé des questions simples sur son travail et il a sorti une feuille blanche pour me faire un schéma. Et je dois dire, j'adore les schémas.
Vous avez des enfants à qui vous expliquez 4 ? Ah oui, donc vous avez l'habitude de sortir la petite feuille.
Non, je sors pas.
Encore un bide. La DG élargissement, m'explique-t-il, elle est en charge, c'est logique, d'accompagner les pays qui souhaitent entrer dans l'UE à mener les négociations.
Notre but, c'est de faire en sorte que l'Ukraine soit prête, se mette en conformité avec les normes phytosanitaires européennes, avec les règles du marché de l'énergie européen, pour les transports, pour les services financiers, et bien sûr, tout ce qui est état de droit et lutte anticorruption, qui sont les sujets les plus délicats.
La candidature ukrainienne, elle est très particulière, bien sûr. 5 jours après l'invasion à grande échelle de la Russie, l'Ukraine dépose sa demande d'adhésion. Puis quelques semaines plus tard, le président Zelensky intervient devant les parlementaires, standing ovation. L'UE accorde alors le statut de candidat en juin 2022. Au début, il était question d'une adhésion vers 2030, optimiste selon certains. Mais en décembre dernier, Zelensky parle de 2027. Stupeur et scepticisme à Bruxelles. Je lis que les officiels de la Commission comprennent alors que l'Ukraine ne pourra accepter certains aspects du traité de paix, comme des concessions territoriales à la Russie, qu'en échange d'une perspective crédible d'adhésion. La Commission serait donc en train d'imaginer un processus d'adhésion allégé et plus rapide. Mais là-dessus, Benoît ne peut rien me dire.
La plupart des régions ukrainiennes ont des coupures d'électricité plus de 50% du temps aujourd'hui, notamment dans l'Est de Bruxelles. Forcément, on a du mal à imaginer ce que c'est.
Et pour mieux se rendre compte de la réalité sur place, Benoît et son équipe sont envoyés à Kiev une fois tous les 3 mois. Je le disais, Benoît est un garçon très sérieux, mais je lui demande quand même s'il accepterait d'envoyer des notes vocales lors de son prochain voyage à Kiev. Et ils me surprennent parfois, ces fonctionnaires européens.
La voix que vous venez d'entendre, c'était la voix des militaires ukrainiens qui contrôlent les passeports à la frontière.
Il y a quelques jours, quand il prend un train de nuit entre la frontière polonaise et Kiev, eh bien, il m'écrit.
Il est minuit et demi.
Il enregistre des ambiances.
Moi, je suis dans un wagon de luxe, entre guillemets, il n'y a que 2 couchettes, où je suis avec une journaliste canadienne. On sait qu'on a devant nous une nuit qui sera à la fois longue, car on va arriver à Kiev qu'à 10h du matin, mais courte, surtout quand, comme moi, vous faites 1m90. Voilà.
Benoît est arrivé dans son service il y a tout juste 1 an. Mais avant, il avait beaucoup travaillé sur l'aspect financier des sanctions imposées par l'Union européenne à la Russie.
Et donc, je m'occupais de l'impact des sanctions sur la Russie, sur le système financier européen. Le but, c'était toujours en sorte de faire des sanctions qui avaient un très fort impact sur la Russie, mais un impact le plus faible possible sur l'Union européenne.
Et donc, l'été dernier, Benoît, spécialiste financier, père de 4 enfants, partait pour la première fois en Ukraine.
Il est 7h du matin, le soleil se lève et c'est parfois étonnant de voir à quel point un pays en guerre peut être aussi calme et aussi beau. La campagne est tout enneigée, il fait à peu près moins 20 je crois ce matin. Voilà, je parle pas trop fort parce que je crois que je suis le premier debout dans tout le wagon. Et moi quand je vais en Ukraine, c'est notamment pour évaluer si l'Ukraine remplit les conditions requises pour recevoir l'aide budgétaire européenne. On regarde si l'Ukraine a passé cette réforme, si l'Ukraine a recruté les personnes qu'elle avait dit qu'elle recruterait pour la lutte anticorruption. C'est ce qui permet aussi d'établir une relation de travail assez étroite avec eux. Écoutez, là, on sort d'un meeting au ministère de l'économie. On est dans le bâtiment principal du gouvernement ukrainien. C'est un quartier qui est barré par des barrages, des guérites. C'est un bâtiment en style soviétique. Il y a des grandes entrées, des immenses couloirs. Et en fait, vous avez des sacs de sable à droite, à gauche, enfin, qui protègent toutes les entrées. Il y a des filets de camouflage. Voilà, la discussion, ça s'est bien passé. C'était sur les différentes réformes et quelles sont les priorités du gouvernement. Bah, sur place, vous vous rendez compte, typiquement, c'est quoi les alertes aériennes. Vous vous rendez compte à quel point les équipes sont un petit peu décimées. Donc, ils ont des problèmes de ressources au niveau des autorités. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés, mais c'est aussi pour ça qu'on a des projets d'assistance technique qui les aident d'un point de vue pour rédiger des textes juridiques qui sont en conformité avec le droit européen ou des choses comme ça.
On
sort d'un déjeuner avec un de nos homologues au ministère de des Finances ukrainien. Et là, on se dirige à pied vers le ministère de l'Énergie. Et on va discuter évidemment toutes les démarches et actions entreprises pour adresser les problèmes liés à la corruption dans le secteur.
Voilà, et c'est de ça qu'on va parler de corruption, toujours avec Benoît, dans le prochain épisode.
On a déjà hâte. Merci beaucoup.
Merci.
Caroline, à la semaine prochaine.